Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Deuxième temps de notre série que nous consacrons au monde agricole. Hier, nous explorions les racines du malaise paysan. Aujourd'hui, place à l'avenir et au nouveau modèle agricole qu'exige le contexte climatique et environnemental. Protéger la terre, la bataille des modèles, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
We need to transform the way we produce and consume food.
Nous devons faire évoluer notre manière de produire et de consommer la nourriture. L'agroécologie a beaucoup de choses à apporter pour le développement durable.
Le compost aérobique est fait tout simplement avec du fumier, de la paille, matière végétale, en utilisant de la cendre, tout qui arrive de la nature.
It can safeguard natural resources.
L'agroécologie aide à préserver les ressources naturelles et contribue au respect de la diversité naturelle biologique. L'avenir du système alimentaire mondial ne doit pas reposer sur un modèle intensif, mais sur un modèle riche de connaissances.
Nous, notre pari, c'est de se dire qu'on pouvait remettre la vie là où elle était plus. Ici, on est parti vraiment d'un champ, d'un ancien champ céréalier conventionnel, donc qui avait reçu beaucoup de pesticides. En 6 ans, on voit le résultat, c'est extraordinaire. La vie est revenue.
On entendait notamment José Graziano de Silva, directeur général de la FAO, qui appelait le monde à aller vers plus d'agroécologie, un chemin que certains suivent, du Burkina à la France, on entendait. Agriculture intensive, agroécologie, agriculture raisonnée, de précision, biologique, permaculture, autant de termes que de systèmes agraires en compétition pour assurer l'alimentation mondiale et protéger la terre. Derrière la concurrence des modèles, deux impératifs, nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050, le tout sans polluer plus encore l'air, l'eau et le sol, et sans faire disparaître les reliquats de la biodiversité. Des impératifs irréconciliables, il faut espérer que non, mais à coup sûr, des impératifs qui nécessitent une très grande précision dans l'ajustement du système agraire au contexte local, climatique, social et économique, sans dogmatisme ni sectarisme. C'est avec souplesse qu'il faut construire le monde agricole de demain, adapté aux besoins de chacun et la protection de tous. Alors comment l'agriculture mondiale doit s'adapter aux défis environnementaux? Le passage vers une agriculture biologique, une agroécologie, peut-il permettre de nourrir le monde? À quelles conditions? Et comment penser la transition vers les modèles de demain? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité un agronome, bien sûr, professeur à AgroParisTech, Thierry Doré, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes notamment co-auteur avec Marc Dufumier et Gilles Rivière-Weckstein de Agriculture biologique, espoir ou chimère, point d'interrogation, qui était paru aux éditions Le Muscadier et qui va reparaître dans une nouvelle édition très
2019,
bien, 2019,
oui.
Donc cette année. Et justement, dans l'introduction de votre livre, Thierry Doré, vous commencez par insister sur le fait qu'il n'existe pas d'agriculture qui respecterait complètement les équilibres naturels. L'agriculture est par sa nature une activité qui transforme les équilibres naturels. Il faut immédiatement échapper à cette ambition qui serait d'avoir une agriculture qui n'aurait pas d'impact sur les écosystèmes. Ça n'existe pas. C'est toujours bien de le rappeler.
Bien sûr, ça n'existe pas. Tout être vivant dans un écosystème produit un certain nombre de perturbations par rapport à des notions d'équilibre. Équilibre, d'ailleurs, qui est une notion qui pourrait être discutée. Ce sont toujours des équilibres instables. Donc l'homme, à partir du moment où c'est un animal dans l'écosystème, fait bouger un certain nombre de paramètres de l'écosystème. Mmh. Et à partir du moment où l'agriculture évolue, elle fait des dommages de plus en plus importants à l'intérieur de cet écosystème.
Deuxième idée. Idée reçue que vous battez en brèche, il n'existe pas d'âge d'or de l'agriculture. Vous dites, je vous cite, il a toujours fallu se battre contre les aléas climatiques et biologiques et produire davantage pour une population non agricole croissante. Donc on ne pourra pas s'en sortir non plus, Thierry Doré, en se contentant d'imiter ce qu'on faisait avant.
Certainement pas. D'une part, parce qu'effectivement, ça n'était pas un âge d'or. Si on relit les auteurs qui ont décrit l'alimentation au Moyen-Âge, évidemment, c'était pas une période qui était enviable, et même au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et par ailleurs, de toute façon, les écosystèmes ont continué à évoluer. Et donc, nous ne sommes plus dans les mêmes écosystèmes que ceux qui existaient au Moyen-Âge ou au XIXe siècle. Donc, de toute façon, on ne pourra pas espérer imiter l'agriculture d'antan, même si certains essayent de caresser ce rêve, de toute façon, il faut adapter l'agriculture actuelle aux nouveaux enjeux, mais sans espoir de retourner à une agriculture rêvée antérieure.
Quand on parle d'agriculture biologique, d'agroécologie, on fait référence à des réalités qui sont parfois très différentes, Thierry Deray. Est-ce qu'on peut s'accorder sur une définition de ce que serait l'agriculture biologique? Quels seraient au fond les grands principes, les grandes valeurs derrière lesquelles qui structurent finalement cette agriculture biologique?
Pour l'agriculture biologique, c'est relativement facile puisque c'est un des types d'agriculture pour lequel il y a une définition officielle, notamment européenne, et qui met l'accent sur différents principes, des principes de respect des régulations biologiques, des principes d'équité, des principes de complémentarité entre différents compartiments des écosystèmes. Je dis ça de manière un peu imprécise par rapport à la définition officielle. Mais j'insiste sur le fait que ce sont des principes et que ça ne sont pas que des interdictions, notamment l'interdiction des produits de synthèse, qui est une des caractéristiques de la définition officielle, mais qui est loin de couvrir la totalité de l'esprit de l'agriculture biologique.
Mais en tout cas, pas d'engrais chimiques. Ça rentre...
Pas d'engrais de synthèse.
De synthèse.
Engrais chimiques, par définition, les engrais...
Oui, organiques sont aussi des engrais chimiques.
Les engrais organiques finissent par devenir des engrais chimiques.
Pas d'OGM non plus ?
Pas d'OGM non plus.
Si on peut s'accorder, vous êtes en train de le faire, sur une définition de cette agriculture biologique, en revanche, il n'y a pas de méthode, de processus qui permettrait d'atteindre justement cette agriculture biologique. Il n'y a pas de moyens uniques, de moyens normés, donc l'agriculture biologique, en réalité, elle est profondément plurielle.
Tout à fait, elle est plurielle parce que les écosystèmes sont pluriels et parce que les sociétés sont également plurielles. Donc il existe une très grande diversité de modalités d'agriculture biologique. On peut prendre deux extrêmes. L'agriculture biologique certifiée dans les pays du Nord avec des agriculteurs qui respectent un cahier des charges. Et puis de l'agriculture biologique spontanée dans les pays du Sud, dans des situations dans lesquelles il n'y a pas d'accès possible aux ressources qui sont interdites en agriculture biologique, les engrais de synthèse, les produits phytosanitaires de synthèse. Et de fait, il existe dans ces situations-là une agriculture biologique spontanée. Mais entre l'agriculture biologique normée et certifiée des pays du Nord et l'agriculture biologique forcée des pays du Sud, il y a des différences de pratiques qui peuvent être considérables.
Ça varie selon les espaces, mais ça varie aussi en fonction du temps. On pose quelques éléments là, c'est important, et ensuite on va évoquer un certain nombre de questions, mais il faut aussi rappeler que l'agriculture biologique, elle a évolué au cours du temps. Il faut la replacer, il faut l'inscrire, et vous le dites d'ailleurs dans votre introduction, dans un processus évolutif. Celle d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, celle des années 70, et probablement pas celle de dans 20 ans.
Tout à fait, elle évolue comme évoluent toutes les agricultures. D'ailleurs, il y a un exemple concernant l'agriculture biologique qui est très contemporain. Les agriculteurs biologiques s'interdisent d'utiliser des herbicides. Et du coup, une des modalités pour lutter contre les espèces indésirables dans les champs, c'est de travailler les sols de manière importante. Mais travailler le sol de manière importante, ça a aussi des inconvénients, notamment vis-à-vis du déstockage du carbone, vis-à-vis de certains compartiments de la biodiversité. Et donc les agriculteurs biologiques sont en train petit à petit de quitter un travail du sol intense pour aller vers des pratiques moins intenses de travail du sol. C'est une des transformations très contemporaines de l'agriculture biologique.
Quand on parle d'agriculture biologique, Thierry Deray, on fait appel à des principes, à des valeurs, à des ambitions qui ne sont peut-être pas directement liées à la terre, au mode de production. Par exemple, on dit il faut favoriser les circuits courts, il faut rapprocher les producteurs des consommateurs, avec en toile de fond peut-être cette ambition beaucoup plus large de sortir du modèle actuel dans lequel on est, le modèle capitaliste finalement. Et donc se positionner par rapport à l'agroécologie, à l'agriculture biologique, revient aussi à se positionner politiquement. Vous dites l'agriculture biologique, c'est devenu un marqueur politique extrêmement fort. Donc cette valeur symbolique politique que revêt l'agriculture biologique, elle peut avoir tendance à altérer bien sûr les véritables débats scientifiques qu'il y a derrière. Vous, vous en faites constamment ces débats scientifiques. Comment on peut dépolitiser tous ces débats autour de l'agriculture biologique ?
Je ne sais pas s'il faut les dépolitiser, parce que ça peut faire partie d'une vision des transformations de l'agriculture que d'accorder des connaissances scientifiques à un projet politique. Donc on peut tout à fait estimer que le projet politique est inclus dans une certaine vision de transformation de l'agriculture. Alors ce n'est pas tout à fait vrai pour l'agriculture biologique, parce que justement il existe ces définitions officielles et cette certification. Et la dimension politique n'est pas présente dans la certification. Il n'y a rien qui oblige dans la certification à avoir un certain projet politique pour l'agriculture. pour l'agriculture biologique. En revanche, si vous prenez l'agroécologie, dans l'agroécologie, il n'y a pas seulement des transformations de pratiques. Il existe aussi un projet transformatif de l'agriculture. Et c'est le cas pour toutes les facettes de l'agroécologie telles qu'elles se présentent à l'heure actuelle, qu'il s'agisse de l'Amérique du Sud, qu'il s'agisse de la France avec le projet agroécologique pour la France, ou qu'il s'agisse de ce qui peut se passer en Espagne ou aux États-Unis.
Mais alors, attendez, que je comprenne bien, ça veut dire que derrière votre travail scientifique, vous revendiquez le droit de porter un projet politique?
Non, c'est pas tout à fait ça que je dis. Mon travail scientifique, c'est un travail de scientifique qui peut d'ailleurs porter aussi sur une dimension politique, bien que ce ne soit pas mon domaine de prédilection. Ce que je signifie, c'est que dans les dénominations qui existent pour l'agriculture, notamment pour l'agroécologie, il n'y a pas qu'une transformation technique, il y a aussi un projet politique. Et les tenants de l'agroécologie à l'heure actuelle essayent de lier les transformations techniques de l'agriculture, la science, l'environnement et un projet politique. Et donc, il n'y a pas de neutralité. Quand vous avez des transformations techniques, ce sont des transformations techniques qui sont au profit d'une certaine vision de l'agriculture. Ce qui ne veut pas dire que vous biaisez systématiquement votre démarche scientifique en fonction de ce que vous visez pour l'agriculture.
Sauf que il peut y avoir un problème, parce que en réalité le projet politique qu'il y a derrière peut aussi évoluer en fonction du temps. Il y a quelques années, il y a quelques décennies, la majorité, j'allais dire, du monde de l'agronomie poussait vers une transformation de l'agriculture qui allait vers un modèle intensif, extensif, productiviste, qui a transformé évidemment peut-être pas dans un sens tout à fait souhaitable le monde rural. Donc ça veut dire aussi qu'on peut se tromper, que les scientifiques qui sont aussi porteurs de ce projet politique peuvent se tromper. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin, pardon, de revenir justement à de la science pure? Évidemment, bien sûr, quand on fait de la science, on fait aussi de la politique, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité de revenir, de remettre au cœur du travail de l'agronome que vous êtes, la question scientifique?
Alors, elle n'a jamais quitté le cœur du travail d'agronome, la question scientifique. Peut-être que je me suis mal exprimé. On peut partir là sur une dérivation plutôt épistémologique. Je pense qu'il y a une capacité à traiter des problèmes scientifiques avec une certaine indépendance, pas absolue, mais une certaine indépendance par rapport à un projet politique en tant que scientifique. Ce que je voulais exprimer, c'est que derrière les termes qui existent à l'heure actuelle, notamment l'agroécologie, il n'y a pas qu'une approche scientifique. Il y a une combinaison entre une approche scientifique, une approche sociale, une approche politique, qui prend plus ou moins en considération des dimensions environnementales, des dimensions économiques et sociales.
Et alors, jusqu'où le virage de l'agriculture biologique remet en cause le modèle capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui? Sur quoi est-ce qu'il faut faire un trait si, disons, l'ensemble du monde, et ensuite on va venir vraiment aux questions très concrètes, voir les capacités nourricières de l'agriculture biologique, etc., etc., mais si on dit, on prend cette hypothèse que l'ensemble du monde enclenche la transition écologique et que l'on passe vers un tout agriculture biologique, sur quoi faut-il faire un trait par rapport à notre système d'aujourd'hui?
Je ne suis pas certain qu'on puisse d'emblée dire qu'on va basculer vers l'agriculture biologique à l'échelle internationale. Il y a une étude de 2018 portée par deux organisations sur la conversion de l'agriculture biologique à l'échelle européenne, cette fois-ci, qui montre que effectivement on peut satisfaire un certain nombre de besoins à l'échelle européenne. Il existe aussi des travaux à l'échelle française. Ceci étant, un passage complet à l'agriculture biologique à l'échelle internationale, c'est quelque chose qui n'est pas immédiat à mettre en œuvre pour des raisons de productivité, pour des raisons d'inconnu concernant les conséquences que ça peut avoir sur un certain nombre de dynamiques des écosystèmes, et puis pour des raisons économiques et sociales, le basculement d'un système à un autre n'est pas forcément quelque chose d'immédiat. On le voit avec la progression de l'agriculture biologique en France. Elle est réelle, elle est importante ces dernières années, mais elle ne correspond pas à un basculement majoritaire d'une année à l'autre, voire même d'une décennie à l'autre.
Oui, c'était une pure hypothèse de travail, une pure hypothèse de pensée. Mais si je reprends, Thierry Doré, votre exemple de cette étude de 2018 au niveau européen sur cette généralisation du bio à toute l'agriculture, qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle change de notre système actuel une fois encore? Est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, changer notre régime alimentaire? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'il faut aussi qu'on perdrait quasi mécaniquement toute velléité exportatrice? Par exemple?
Alors, on connaît les paramètres depuis une dizaine d'années. Les études qui sont consacrées à cette problématique reviennent toujours sur les quelques mêmes paramètres, changement du régime alimentaire, modification des flux de denrées agricoles, donc des exportations et des importations, limitation de des pertes par gaspillage. Ce sont trois variables très importantes. Et puis, il en existe une quatrième qui est l'augmentation ou la stabilisation des surfaces cultivées, donc tout ce qui touche à la déforestation, au défrichement, etc. En gros, avec ces quatre variables-là, on sait qu'on a une équation qui devrait être la base de la transformation des systèmes.
On va revenir sur la question du gaspillage que vous évoquiez, la question du régime alimentaire, mais parmi évidemment les débats autour de l'agriculture biologique, c'est sa capacité nourricière. Avec des partisans du bio qui considèrent que finalement, bien que les rendements soient plus faibles que l'agriculture conventionnelle, sa généralisation, une fois encore, il faut faire peut-être un travail de pensée, parce que bien sûr que les choses ne se font pas de façon immédiate, mais elles permettraient de nourrir l'ensemble du monde, alors que d'autres sont peut-être plus circonspects par rapport à cette possibilité de basculer d'abord totalement à l'échelle de l'ensemble du monde, mais surtout sans perdre en quantité. Alors, qu'est-ce qu'on sait précisément de ces capacités nourricières de l'agroécologie? Est-ce qu'il y a des études récentes qui nous disent des choses là-dessus?
Alors, on va dire de l'agriculture biologique plutôt que de l'agroécologie. Je pense qu'il vaut mieux éviter
de... utiliser ce terme
de... Oui, parce que l'agriculture biologique, on sait quelle est la réalité.
D'accord.
Derrière, même si elle est multiple, alors que agroécologie, c'est un terme qui peut être employé avec des usages extrêmement variables d'une communauté à l'autre.
Donc si agriculture biologique,
si,
plutôt.
Si on considère l'agriculture biologique, finalement, on sait qu'il va falloir, comme le cahier des charges l'impose, limiter l'emploi des engrais et des produits phytosanitaires de synthèse. Et ça va entraîner un bouleversement significatif. Pour pouvoir se passer des engrais et des produits phytosanitaires, il faut changer assez considérablement les systèmes de production agricole. Ça veut dire davantage de diversification, ça veut dire très souvent recombiner les productions végétales avec les productions animales, alors que dans nos pays et dans d'autres pays dans le monde, la tendance a plutôt été à la spécialisation des systèmes au cours des dernières décennies. Donc ça veut dire un changement assez significatif par rapport à la réalité actuelle d'une grande majorité des exploitations en Europe.
Oui, et puis si on regarde cette question des rendements que j'évoquais, vous dites d'ailleurs dans votre livre que si on se place à l'échelle planétaire, c'est pas forcément une mesure pertinente, notamment parce que dans beaucoup de pays du Sud, l'agriculture, disons conventionnelle, se fait déjà sans intrants. Donc leur appliquer les principes de l'agriculture biologique reviendrait à apporter des engrais, cette fois organiques, là où il n'y en avait pas, et donc augmenter les rendements.
Oui,
je vous ai bien lu, c'est ça?
J'avais oublié votre question sur la productivité.
C'est pas grave, je reviens. J'en reviens avec.
Donc sur cette question, effectivement, ce que l'on sait, c'est que en moyenne, à l'échelle internationale, il y a 20% de rendement de moins en agriculture biologique par rapport à l'agriculture dite conventionnelle. Mais on sait que c'est une moyenne avec des variabilités importantes, à la fois en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. Donc l'écart entre les deux admet aussi une variabilité qui est très forte. Donc c'est compliqué de faire des estimations globales, alors qu'il faudrait pondérer chacun des résultats auxquels on est confronté par les surfaces qui sont concernées. Quand on fait des moyennes, pour le moment, c'est avec des essais ponctuels à l'échelle d'une parcelle. Et donc, on peut avoir la moyenne de 10 essais, mais qu'un des essais représente une surface qui est 100 fois plus importante qu'un des autres essais. Donc, il faut se garder de projeter ces moins 20% sur une agriculture à l'échelle de l'ensemble de la planète. Par ailleurs, un des éléments du débat, c'est aussi est-ce que ces 20%, c'est quelque chose d'inéluctable ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réduire progressivement avec une transformation des écosystèmes qui progressivement s'adapte aux nouvelles pratiques agricoles d'agriculture biologique et qui pourrait permettre de réduire cet écart entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique.
Alors, il y a eu évidemment des études sur cette question, par exemple celle de 2016 avec deux chercheurs américains que je vais citer, John Reganol et Jonathan Watcher, qui avaient publié les résultats de 40 ans de recherche sur l'agriculture biologique en reprenant toute une série de critères, la question de la productivité, les performances économiques, l'impact environnemental, le bien-être social aussi, qui était rentré dans cette étude-là. Et leur conclusion était de dire que l'agriculture biologique peut nourrir les 7 milliards d'humains sans causer de problèmes environnementaux et sanitaires, mais sous certaines conditions. Vous nous rappelez lesquelles?
Alors,
et là, on va revenir au gaspillage, au régime alimentaire.
Alors, déjà faire l'hypothèse que l'on peut, c'est intéressant parce que ça remet la question de la productivité au centre d'un certain nombre de débats et ça remet la question de la productivité parmi l'ensemble des conditions que vous évoquez et qui sont pas seulement celles de du niveau de production à l'échelle parcellaire. Donc, pour pouvoir nourrir la planète avec une productivité qui est moindre, ça veut dire qu'il faut limiter les sorties du système, en particulier limiter le gaspillage. Donc on estime qu'il y a à peu près 30% de la production agricole mondiale à l'heure actuelle qui n'est pas consommée par les destinataires finaux.
C'est ce que dit la FAO. Ouais.
Ça correspond à un manque à gagner énorme.
Et on a une marge de manœuvre là-dessus ?
Alors, il existe déjà des actions significatives, y compris en France, pour limiter le gaspillage alimentaire et également au niveau européen. On a une marge de manœuvre, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on n'arrivera jamais à 0%, parce qu'il y a une partie du gaspillage qui est liée à des pertes entre le champ et puis l'assiette du consommateur, et qui sont liées à nos propres exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments, par exemple. Mmh. À partir du moment où on a certaines exigences avec des dates de péremption, effectivement, on risque d'avoir un gaspillage quasi inévitable. En revanche, il existe des marges de manœuvre, notamment sur des critères qui se sont assouplis concernant l'aspect des denrées alimentaires, notamment des fruits et des légumes, qui avant étaient jetés et qui maintenant sont réincorporés dans les circuits alimentaires.
Sur le régime alimentaire, à quoi ressembleraient nos régimes alimentaires dans l'ère du tout bio ? Là, une fois encore, il faut faire une expérience de pensée.
Alors, on sait un certain nombre de choses. On sait que, notamment, les protéines animales sont davantage exigeantes en termes de surface, on va dire, et en termes d'énergie nécessaire pour être produites par rapport à des protéines végétales. Donc on sait que si on diminuait la quantité de protéines animales ingérées au bénéfice de protéines végétales, on libérerait un certain nombre de surfaces qui pour le moment sont destinées à l'alimentation du bétail et qui pourraient être destinées à l'alimentation humaine. Mais il faut tout de suite se garder d'en déduire qu'il faut et qu'on peut supprimer totalement les protéines animales, dans la mesure où l'élevage est la seule activité qui permet de tirer parti d'un certain nombre d'espaces, en particulier tous les espaces en herbe. Nous, humains, nous digérons très mal l'herbe. Évidemment, on peut manger de la salade, mais de là à être capable de valoriser toutes les surfaces qui sont obligatoirement en herbe en raison de type de sol ou en raison de problèmes de relief, évidemment, il y a un pas. Et donc les élevages, en particulier de bovins, de ruminants, sont un des moyens de valoriser pour l'alimentation les surfaces qui sont toujours en herbe.
Ça ne sera pas à la fin du régime carné. On estime que le secteur agroalimentaire est à l'origine d'à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Dans l'hypothèse, une fois encore, où l'agriculture mondiale aurait basculé, peut-être que le futur sera fait de ça, et on peut l'espérer, en mode bio. Le gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre et les bienfaits sur l'environnement de façon générale ?
Alors les bienfaits sur l'environnement, ils sont évidents sur un certain nombre de variables et de compartiments. La question des produits phytosanitaires, puisque les produits phytosanitaires de synthèse sont bannis, elle n'est pas totalement réglée par l'agriculture biologique, mais elle est en partie réglée. On n'a plus d'émissions de produits phytosanitaires dans l'environnement, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour l'environnement. Le problème n'est pas entièrement réglé, puisque pour le moment, en agriculture biologique, on utilise beaucoup de produits phytosanitaires minéraux, qui ont aussi un certain nombre d'impacts sur l'environnement, mais pas avec le même type de dissémination. Donc cette problématique-là, elle est relativement simple. En revanche, la problématique des émissions de gaz à effet de serre est plus complexe. Notamment si vous prenez la question de l'élevage, les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait produit sont plus faibles pour un animal qui produit beaucoup de lait que pour un animal qui produit peu de lait. Si en agriculture biologique, on est dans des niveaux de productivité qui sont plus faibles que dans une agriculture dite conventionnelle, dans ce cas-là, avec la même consommation de produits laitiers, on n'a pas de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais sur d'autres dimensions de la question des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture biologique est souvent dans une réconciliation entre les productions végétales et les productions animales. Ça veut dire, avec les productions animales, la production de fumier, ce qui veut dire la capacité à augmenter le carbone que l'on stocke dans les sols. Donc il y a un certain nombre de dimensions qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre vis-à-vis de l'émission de gaz à effet de serre et des changements climatiques. Donc c'est plutôt quelque chose de favorable vis-à-vis de l'environnement, mais sans que toutes les difficultés soient réglées instantanément.
Vous parlez de changement climatique, Thierry Doré, et on va venir à la question polémique. Parce que la dégradation des écosystèmes sous l'effet du dérèglement climatique est de plus en plus préoccupante. À titre d'exemple, il y a eu un récent rapport de chercheurs australiens qui soulignait l'inquiétante disparition des insectes, indiquant que 40% des espèces d'insectes sont en déclin continu depuis une trentaine d'années maintenant, sachant qu'ils sont évidemment essentiels dans le processus de pollinisation et que les cultures pollinisées par les insectes, ça représente quand même plus du tiers de l'alimentation à l'échelle mondiale. Compte tenu de cette dégradation de l'environnement, est-ce qu'on peut vraiment espérer se passer des OGM ou est-ce qu'on sera contraint d'y avoir recours?
On ne va pas faire de la science-fiction ou de la politique-fiction. Mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas traiter des OGM d'une manière globale. C'est-à-dire qu'il y a derrière les OGM une technique qui est la transgénèse. Mais qu'avec cette technique-là, on peut faire des OGM qui ont des propriétés qui sont complètement différentes. La plupart des OGM commercialisés à l'heure actuelle sont des OGM de résistance aux herbicides et des OGM qui permettent de conférer aux plantes une capacité de repousser les insectes.
Mais si on n'a plus d'herbicides, on n'a plus besoin d'OGM.
Alors, pour ces OGM-là, tout à fait. Mais votre question, elle portait plutôt sur la question des insecticides et du déclin des insectes. Oui. Donc les OGM qui permettent de repousser un certain nombre d'insectes, ils peuvent avoir les mêmes vices par rapport à la baisse du nombre des insectes que les insecticides. Donc la problématique n'est pas tellement celle des OGM ou pas, elle est celle de la capacité à limiter les dégâts qui sont liés aux insectes, qui sont très importants, sans pour autant détruire les populations d'insectes. Et c'est une contradiction qui est très importante pour l'agriculture.
Sauf que pour l'instant, on n'arrive pas à la régler, cette contradiction.
Non, on n'arrive pas à la régler.
Les insectes disparaissent.
Tout à fait.
Et c'est une catastrophe. Point.
Alors, si vous regardez cette étude, elle ne met pas en cause que l'agriculture.
Absolument.
Elle met en cause quatre facteurs. Hein, et donc, la destruction des habitats, par exemple, est un autre élément qui est significatif. Ce sont pour partie les habitats en situation agricole qui sont concernés, mais pas seulement. Donc de toute façon, on a une difficulté qui est liée au fait qu'un certain nombre d'êtres vivants dégradent la capacité productive, que pour maintenir une capacité productive qui permette de nourrir l'humanité, on est obligé d'essayer de lutter contre ces êtres vivants et que ça a un certain nombre d'effets collatéraux tout à fait dommageables vis-à-vis de la biodiversité.
Et de façon plus générale, parce que tout à l'heure j'ai utilisé dans mon introduction une formule, l'agriculture de précision, qu'on appelle aussi parfois l'agriculture 2.0, c'est-à-dire cette agriculture qui fait appel à des pratiques, à des nouveaux outils découlant de la révolution numérique qui permettent d'optimiser les processus de production. Qu'est-ce qu'on peut en attendre très concrètement? Jusqu'où est-ce qu'on peut repousser les limites pour justement avoir une agriculture plus productive, mais qui soit quand même une agriculture biologique?
Alors vous avez deux unités de retard, c'est 4.0 maintenant.
4.0 maintenant, oui. C'est quoi la différence entre le 2.0 et le 4.0?
Peut-être que le 2.0, c'était l'agriculture numérique d'il y a deux décennies. C'est-à-dire que le numérique en agriculture, ça ne vient pas des années 2010.
Bien sûr.
Déjà dans les années 1990, on va dire, il y avait une utilisation du numérique, notamment avec l'information satellitaire qui a été utilisée pour l'agriculture de précision. Donc là, on passe à quelque chose qui est plus massif, notamment avec la robotisation, avec le partage de données. Donc tout ça fait partie maintenant de l'agriculture 4.0. Alors on peut en attendre des bénéfices. Par exemple, vous avez maintenant des robots qui sont capables de localiser de manière très précise l'emploi des produits phytosanitaires. Plutôt que d'épandre ces produits sur toute une parcelle, vous allez localiser précisément sur les mauvaises herbes que vous voulez éliminer. Ceci étant, ça n'est pas la totalité des usages possibles du numérique. Là, on reste dans un système qui est finalement un raffinement du système d'agriculture conventionnel. Vous pouvez aussi envisager d'avoir quelque chose qui soit un peu moins high-tech, un peu plus low-tech, qui utilise pour partie le numérique, par exemple avec des robots de désherbage qui sont des désherbages mécaniques et qui permettent aussi de gagner en gain par rapport à la pénibilité du travail sans forcément rester dans un système qui serait extrêmement intensif.
La question de l'agriculture, c'est évidemment une constante, Thierry Deré, dans toutes les grandes réunions internationales sur le climat, mais on voit bien les difficultés qu'on a déjà à trouver des accords, et même quand on a des accords, à les mettre en œuvre et même à les respecter. On a vu évidemment le dernier exemple en date avec les États-Unis de Donald Trump qui ont décidé de se retirer de l'accord de Paris. Est-ce que vous pensez qu'au fond, ça veut dire que la transition dans le domaine de l'agriculture, elle ne se fera pas, elle ne se décidera pas au niveau supranational, et que de toute façon, c'est une révolution qui viendra par le bas?
Il faudra réussir à concilier les deux. Il faudra une révolution par le bas, je l'entends, par les citoyens qui vont se mobiliser par leurs moyens de pression qui est lié à la capacité d'acheter tel ou tel produit, de favoriser tel ou tel circuit, d'avoir telle ou telle garantie sur l'origine. Mais on ne peut pas imaginer non plus qu'elle n'intègre pas cette évolution ou un certain nombre d'accords, d'ententes à l'échelle supranationale. La question des volumes qui sont exportés, je ne crois pas qu'il soit sage de la laisser uniquement à des politiques purement libérales d'ajustement d'offres et de la demande par des prix. On est dans des situations, et on va de plus en plus être dans des situations tendues du point de vue de l'approvisionnement. Et je pense qu'il serait beaucoup plus sage qu'il y ait une entente au niveau international pour savoir quels sont les niveaux de production qu'il faut envisager à tel ou tel endroit pour être capable d'alimenter telle ou telle partie de la planète en minimisant les impacts environnementaux.
Vous avez vraiment la conviction qu'on peut se mettre d'accord sur ce point?
Il faudra.
C'est loin d'être le cas, hein.
Mais je pense qu'il faudra.
Mais vous vous souvenez, il y a dix ans, ce qu'on avait appelé les émeutes de la faim un peu partout en Afrique, et on avait dit, par exemple, qu'il fallait revenir sur la place des marchés des matières premières agricoles, que ça ne pouvait pas être des objets sur lesquels on spécule. Rien n'a été fait, ou quasi, en 10 ans, sur ce point. Par exemple, hein.
Oui, mais j'espère que les nouvelles générations vont être plus raisonnables. Vous savez comme moi que certaines générations se mobilisent à l'heure actuelle de manière importante, y compris des générations de moins de 20 ans, pour le climat et pour la transformation des modes de vie, pas seulement agricoles.
Donc comptons sur les futures générations.
Essayons déjà nous-mêmes de bouger, et puis comptons sur les futures générations, mais il faut se dépêcher.
Et vous avez l'impression qu'on bouge? Si on regarde par exemple sur la question de l'Europe, on est là en pleine renégociation de la PAC pour l'après 2020, vous avez le sentiment qu'effectivement la politique européenne va aller vers ce modèle de demain dont on parle depuis tout à l'heure avec vous, cette agriculture biologique?
Ce que l'on en sait à l'heure actuelle, c'est pas super convaincant. Mais peut-être que pour le tour suivant, on va réussir à être beaucoup, 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 beaucoup plus efficace.
Et est-ce que les autres font mieux? Quand je parle des autres, je parle par exemple de la Chine et de l'Inde, parce que demain, ils vont évidemment représenter énormément. Ils représentent déjà énormément. C'est quoi, 2,6 milliards si on met les deux, si on additionne les deux? Est-ce qu'ils ont pris conscience de l'importance de basculer vers un autre modèle? Et est-ce que le virage a été pris?
Je suis pas spécialiste de ces questions-là, mais pour la Chine, c'est difficile de savoir exactement ce que le gouvernement a en tête. Ce que l'on constate au niveau de la recherche, c'est que nos collègues chinois sont de plus en plus intéressés pour dialoguer avec nous sur ce basculement de l'agriculture. Alors que dans les décennies des années 2000-2010, ils étaient dans un système d'intensification important, notamment sur l'usage de l'eau. Maintenant, il y a un intérêt pour discuter avec les Européens de questions qui sont de la transition agroécologique.
Vous discutez ou vous coopérez?
Il y a les deux. Il y a de la discussion et il y a de la coopération. Il y a des laboratoires mixtes avec un certain nombre d'universités chinoises, par exemple.
Et sur quel projet on coopère?
Un exemple? Il y a des projets sur le stockage du carbone, par exemple, sur la qualité des sols. Donc ce sont des transformations qui ont l'air de prendre au niveau au moins scientifique en Chine. Est-ce que c'est le reflet d'une volonté politique globale? Je ne saurais pas le dire.
Protéger la Terre, la bataille des modèles, c'est notre sujet ce matin avec vous, Thierry Deré, dans cette grande semaine sur les travailleurs de la Terre. 11h32, on va prendre la direction des Pays-Bas.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Je suis en train de lancer le robot qui va nettoyer l'allée des vaches. On a un ordinateur qui gère la température de l'étable et qui contrôle tout. Le soleil, le vent qui rentre, s'il pleut l'humidité, la température. Quand une vache entre dans le robot, elle reçoit du concentré, une sorte de bonbon. Elle aime ça, c'est pour ça qu'elle revient souvent. La porte se ferme, le robot nettoie les trayons, qui sont ensuite automatiquement branchés, et la traite commence.
Mmh. Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France Télévisions dans cette ferme quasiment du futur, bah pas du futur, du présent, puisqu'elle existe du côté des Pays-Bas. Et d'ailleurs, cette agriculture néerlandaise, elle est particulièrement productive. Quand on regarde les niveaux de production au kilomètre carré, ils sont extrêmement élevés. C'est même la première du monde s'agissant des tomates, des piments ou encore des poivrons verts. Et dans le top 5 pour les concombres, les poires ou encore les carottes. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et dans le même temps, ce pays, il est particulièrement attentif à préserver des espaces naturels. Il y a une politique préservationniste extrêmement volontariste et on va essayer de comprendre comment les deux s'articulent. Bonjour François-Joseph Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Strasbourg. Vous vous intéressez à la manière dont les Pays-Bas justement ont conduit leur action publique en matière de préservation de l'environnement, tout en ayant un secteur de l'agrobusiness extrêmement productif, extrêmement rentable, je le disais. Et vous avez essayé de comprendre comment on articulait les deux. Et parmi les programmes de préservation de la biodiversité auxquels vous êtes intéressé, il y a ce programme de gestion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce programme de gestion, quels sont ses objectifs et comment il oblige les travailleurs de la terre aux Pays-Bas à s'engager dans une logique de préservation de l'environnement, François-Joseph Daniel?
Oui, donc ce qu'il faut peut-être ajouter dans le contexte des Pays-Bas, c'est une urbanisation très très forte et donc une pression entre guillemets des urbains sur le rural pour justement s'engager dans des logique un peu environnementale et avoir des espaces en fait de récréation entre guillemets où les urbains peuvent respirer d'une certaine manière. C'est comme si on était dans un espace périurbain assez généralisé aux Pays-Bas. Donc il y a ces trois éléments, donc l'urbanisation très forte, un mouvement environnementaliste et conservationniste également très important, et puis cette agriculture très intensive. Par rapport à votre question sur le programme de gestion, tout à fait, il y a cette volonté aux Pays-Bas de préserver la nature, et l'une des manières un petit peu de régler cette contradiction qu'il y a entre une production très forte et la préservation de la nature, ça a été notamment la segmentation de l'espace en réservant certains terrains agricoles à de la protection de la nature, tout simplement, en transformant certains terrains en fait en terrains de conservation de la nature. Il y a eu un plan au début des années 90 qui s'appelait le Nature Blade Plan, qui consistait notamment à racheter un certain pourcentage de la surface agricole utile, c'était environ 7,5%, sur une période de 30 ans, en espaces qui seront transformés, qui seraient transformés donc en espaces de conservation, donc qui seraient aussi des espaces de récréation pour les urbains.
Mais quelle place, pardon, là-dedans, François-Joseph Daniel, pour les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'ils sont engagés dans ce processus de préservation. C'est pas on ne touche plus à rien à ces espaces et puis terminé. Ils ont un rôle à jouer.
Alors ils ont tout à fait un rôle à jouer dans dans cette politique, mais ça a été très controversé puisque à cette même époque, on s'est interrogé sur est-ce que on doit véritablement laisser les agriculteurs le soin de protéger la nature, donc d'entretenir les haies, de faire des bandes en herbées, de protéger des nids d'oiseaux, etc., appliquer un certain nombre de mesures que l'on a d'ailleurs en France également, que l'on a adopté également en France, mais il y a eu un gros débat sur leur implication et leur possibilité d'implication. Et la politique, ce qui a été décidé notamment parce qu'il y avait des fonds européens qui arrivaient pour pouvoir, qui arrivaient, des fonds européens de la politique agricole commune notamment, qui arrivaient sur la scène nationale, on a fait le choix de laisser également aux agriculteurs le soin de mettre en place ces mesures. Donc il y a d'une part cette politique de protection en fait dans les espaces naturels dont certains sont rachetés pour sauver ce qui peut l'être, et puis il y a aussi une politique de préservation de la nature dans ces espaces agricoles. C'est ce qu'on appelle l'agro-environnement, quoi.
Et là, dans ce cas en particulier, quel est le bilan qu'on peut tirer de tout ça, ces efforts qui ont été produits par les agricultures pour mieux préserver l'environnement?
Alors, le bilan, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer ça dans les années, à la fin des années 2000, c'est que cette forme de segmentation de l'espace que l'on retrouvait dans les politiques d'aménagement de l'espace, entre la protection de la nature, les espaces productifs, on le retrouve aussi un petit peu finalement au sein de la, au, au niveau de la parcelle, puisque ces mesures agro-environnementales, en fait, elles ont pour vocation de bien protéger un certain nombre de haies, entretenir un certain nombre de haies, protéger des espèces d'oiseaux, des nids d'oiseaux pour... on a beaucoup de populations, notamment de limicoles aux Pays-Bas. C'est un espace, une zone humide. Il y a beaucoup d'espèces liées aux zones humides dans ces espaces. Il y a aussi des bandes enherbées pour promouvoir de la biodiversité à côté des champs, mais il est vrai qu'on peut très bien avoir des systèmes agricoles où on a des systèmes très intensifs, où on continue d'employer des produits de synthèse, phytosanitaires de synthèse, et dans le même temps avoir des nids d'oiseaux qui sont en plein milieu de ce champ-là et qui disent donc protéger un peu la biodiversité. Donc,
ouais, donc une fragmentation, une segmentation très forte. Vous pensez qu'on va rester dans cette logique-là ou est-ce qu'il va y avoir une forme de décloisonnement et qu'on va avoir peut-être une approche plus globale de cette gestion des espaces ruraux, des espaces agricoles ?
Ben c'est quelque chose qui est c'est pas forcément très facile de le savoir. Je pense que toutes les technologies que vous avez parlé tout à l'heure, agriculture de précision on a aussi des fermes à plusieurs étages. Enfin bref, il y a des projets un petit peu sensationnels et aux Pays-Bas de cet ordre-là, hein, qui sont un peu étonnants pour la vision qu'on peut avoir en France d'un agriculteur lié à la terre. Est-ce que cette agriculture-là va prendre donner les promesses en fait qu'elle affiche en consommant moins d'eau, en permettant d'avoir plus de précision dans l'usage des pesticides et des herbicides? C'est toute la question. C'est toute la question et d'avoir cette approche un petit peu globale. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit totalement réglé, bien entendu.
Merci beaucoup, François-Joseph Daniel, de nous avoir éclairé donc cette situation du côté du Pays-Bas. Je rappellerai par exemple que vous aviez écrit dans la revue Politics la gestionnarisation, entre guillemets, des politiques de protection de la nature aux Pays-Bas. Merci infiniment. On va parler dans un très court instant d'agriculture urbaine. Mais d'abord, justement, c'est quoi l'agriculture? Oui, urbaine, c'est bien ça, agriculture urbaine, c'est-à-dire dans la ville, quoi.
L'idée première ici, c'était d'utiliser des espaces que sont les toits, qui sont à l'heure actuelle majoritairement pas valorisés. Les toits, ça peut représenter jusqu'à 32% de la surface d'une ville, et à l'heure actuelle, c'est les surfaces qui sont perdues. Donc première raison, c'est utiliser des espaces perdus. Deuxième raison, c'est générer de la production alimentaire sur ces espaces et générer aussi des espaces que des gens peuvent venir, peuvent jardiner, peuvent passer simplement des moments soit autour d'activités pédagogiques, sociales ou juste des moments ensemble. Et troisième chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ces toits sont utiles à la ville de par ce qu'on appelle nous les services écosystémiques, c'est-à-dire le fait qu'ils retiennent de l'eau, qu'ils stockent du carbone. Tout ça va bénéficier au fonctionnement de la ville et ça va rendre les villes un petit peu plus vivables. Et c'est ça l'un des enjeux majeurs au niveau du développement des villes aujourd'hui.
Voilà, on entendait Baptiste Grard, chercheur en agronomie sur les fermes urbaines, donc extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France Télévisions en 2018. On va retrouver Christine Aubry, qui est agronome, ingénieure de recherche à l'INRA, une spécialiste d'agriculture urbaine, la spécialiste d'agriculture urbaine. Vous aviez, avec une équipe de chercheurs, investi le toit de l'école d'ingénieurs agronomes de Paris, AgroParisTech, pour y installer une ferme urbaine dans laquelle vous menez des expérimentations sur ce sujet. Souvent, Christine Aubry, quand on pense à l'agriculture urbaine, notamment en France, ce qu'on met en avant, c'est surtout le volet social, voire éducatif. On y voit surtout une formidable opportunité pour recréer du lien social dans les environnements où il s'est beaucoup dégradé, ou alors pour sensibiliser les nouvelles générations aux défis environnementaux. L'agriculture urbaine, est-ce qu'elle peut être plus qu'une expérimentation sociale et éducative, Christine Aubry ?
Ça peut être des modèles souvent hybrides entre une vocation sociale et une vocation plus économique, avec une partie de la production vendue, avec, bon, on va dire, des poids relatifs du social et de l'économique très variables selon les formes. Mais il y a des formes d'agriculture urbaine qui sont d'abord et avant tout économiques, à commencer par les fermes périurbaines en circuit court, qui de plus en plus s'urbanisent, si j'ose dire, et qui donc essayent de répondre à la demande des urbains.
Donc ça peut être rentable. Il y a un modèle économique, il y a des entreprises qui gagnent de l'argent en faisant de l'agriculture urbaine ?
Oui, il y a des entreprises qui gagnent de l'argent en faisant plusieurs choses autour de l'agriculture urbaine. Alors on commence à voir des entreprises qui sont beaucoup sur la vente, notamment de produits particulièrement recherchés par les urbains, comme des champignons frais ou comme des micro-pousses. Donc celles-là commencent à avoir des modèles économiques qui sont beaucoup fondés sur la vente. Très généralement, elles ne sont pas que fondées sur la vente. Donc il y a aussi d'autres activités, des activités de service, des activités justement d'éducation, d'ateliers de formation, etc., qui complètent leurs revenus.
Et de quelle marge de manœuvre on dispose avec l'agriculture urbaine? Si on transforme tous les espaces urbains exploitables de nos villes, si on regarde l'Europe, hein, par exemple, et c'est essentiellement les toits, j'imagine, ces espaces urbains exploitables, quel volume est-ce qu'on peut espérer dégager par rapport à ce dont on a besoin, nous, en ville?
Alors, c'est extrêmement variable, mais si on prend le cas de Paris, par exemple, on avait fait une petite estimation. L'Agence parisienne d'urbanisme considérait qu'il y avait environ 80 hectares de toits potentiellement cultivables sur Paris. Et si on applique à ça nos volumes de production sur des systèmes à ciel ouvert, comme on a, comme vous l'avez dit, sur le toit d'AgroParisTech, qui sont aujourd'hui de l'ordre de 10 kg par mètre carré, donc on arriverait à peu près à 8000 tonnes par an de production. Si on arrivait à tout faire en agriculture urbaine, ce qui est très loin d'être le cas. Hein. Mais si on arrivait à ça, on serait donc à moins de 10% de la consommation annuelle de fruits et légumes des Parisiens. Donc de toute façon, on sera très peu, on sera à quelques pourcents au maximum. Je dirais l'enjeu est moins quantitatif que, comme on l'a dit, éducatif, qualitatif, reconnexion des urbains avec la production végétale.
Oui, parce que ces fermes urbaines, elles vont pas permettre de nourrir tous les citadins, mais en revanche, c'est ce que vous dites, le résultat à attendre peut-être le plus important, et c'est pas rien, il est en termes de sensibilisation sur les modes, sur les modèles de production et de consommation en général. Vous dites que ça peut jouer un rôle de catalyseur des transformations du système alimentaire global. Au fond, ça participe de cette bataille culturelle, d'une certaine manière.
Tout à fait. Ouais. Je pense que le rôle essentiel, il est là. Il est d'ailleurs, il commence à être compris par le monde agricole comme ça. C'est très bien. Un responsable francilien d'une chambre d'agriculture nous disait, mais finalement, l'agriculture urbaine, c'est une sorte d'ambassadrice de l'agriculture en général. Alors, c'est probablement effectivement ce rôle-là qu'elle va jouer en priorité. En même temps, ça ne dit pas tout, mais ça dit des choses. C'est-à-dire que pour les urbains, c'est important de savoir ce qu'est un cycle culturel, de retrouver la saisonnalité, de retrouver ce qu'est un peu la difficulté quand même hein, de l'agriculture maraîchère en particulier. Même si on ne voit pas tout, on en voit un petit peu, et c'est déjà un rôle important qu'elle peut jouer.
Mais est-ce qu'on arrive à mesurer justement cet effet, Christine Aubry, qui est évidemment central, on comprend bien que c'est au cœur du problème, mais est-ce que, effectivement, quand des gens participent à des projets d'agriculture urbaine, est-ce qu'effectivement ils changent leur manière de consommer de façon générale? Est-ce qu'il y a des études sociologiques un peu probantes sur ce point?
Alors, peu en France encore. On commence à avoir quelques études qui pointent leur nez, notamment de nos collègues de Montpellier, qui ont commencé à travailler sur les évolutions alimentaires des personnes qui sont dans des jardins associatifs. Donc, on voit que effectivement, il y a ce que nous, on appelle maintenant un effet d'entraînement, c'est-à-dire que les personnes qui produisent elles-mêmes, même fût-ce un tout petit peu, changent leur regard et changent leurs habitudes alimentaires lorsqu'elles le peuvent, notamment sur une plus grande consommation de fruits et légumes. Ce que l'on essaye aussi de mesurer, mais ça c'est un programme qui vient de commencer en 2018, fin 2018, donc c'est un programme encore tout nouveau, programme de recherche sur les services écosystémiques rendus par les micro-fermes urbaines. Et dans ces services écosystémiques, il y a justement les services d'éducation. En quoi est-ce que des micro-fermes installées en ville ou juste à côté de la ville permettent aux urbains d'acquérir finalement de nouvelles connaissances à la fois sur la production alimentaire, sur l'alimentation en général. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à arriver. Hein. Ce sont de nouvelles recherches qui sont en cours.
Et si on dépasse notre horizon national et qu'on regarde dans une perspective européenne, il y a par exemple une capitale qui fait figure de modèle par l'immensité des surfaces utilisées comme potager, c'est Lisbonne. Je crois qu'il y a plus de 7 hectares de jardins associatifs, collectifs, on les appellera comme on voudra. Mais est-ce que le développement de cette agriculture urbaine au Portugal, en particulier à Lisbonne, transforme là aussi les mentalités des Portugais vis-à-vis de façon générale de leur modèle de production? Est-ce qu'on a noté ces dernières années une évolution du système agroalimentaire global portugais?
Alors, je crois que ça n'a pas encore été mesuré. On a une collègue portugaise qui est venue justement voir à Paris ce qu'on faisait et qui est très intéressée par le fait d'aller plus loin, effectivement, dans la mesure de ses effets. Ce qu'on sait, effectivement, c'est qu'au Portugal, comme dans d'autres pays, alors la Grèce, par exemple, a très fortement développé ses jardins associatifs et pour cause, hein, pour des causes alimentaires et de nécessité, mais c'est nouveau, hein, donc il commence à y avoir un intérêt, notamment des politiques, pour mieux mesurer ces effets-là.
Vous dites, et pour cause, vous parlez de la Grèce, je parlais du Portugal, deux pays qui ont été particulièrement atteints par la crise économique. C'est ça le et pour cause? C'est-à-dire que c'est au fond la crise qui a poussé les citoyens à faire davantage d'agriculture urbaine. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'au fond, ce ne sont que les citoyens qui sont à l'origine de ces initiatives, ou est-ce qu'on a aussi des politiques publiques qui visent à développer cette agriculture urbaine?
Les deux, si je veux dire. C'est-à-dire que dans les pays du sud de l'Europe, très clairement, c'est la crise qui a fait énormément, voire qui a créé, pour ce qui est du cas de la Grèce, les jardins associatifs, donc une certaine forme d'agriculture urbaine. c'était une création ou une explosion. On a un collègue qui travaille à Séville, par exemple, qui nous a montré comment, entre 2008 et 2015, le nombre de jardins associatifs avait été décuplé. Mais par ailleurs, il peut y avoir des politiques publiques de plus en plus. De plus en plus, on voit des collectivités qui s'adressent à nous, d'ailleurs, pour savoir un petit peu comment elles peuvent faire pour développer de l'agriculture urbaine sur leur territoire, quand elles ont des territoires travaillés avec des sols éventuellement contaminés, avec des toits. Voilà. Donc il y a un besoin aujourd'hui, une volonté d'un certain nombre de collectivités de développer des formes d'agriculture urbaine. On va dire que c'est un petit peu dans toute la mouvance des projets alimentaires territoriaux, de toutes ces volontés des villes d'avoir des stratégies alimentaires et des stratégies de réintroduction de la nature en ville.
Alors, j'allais dire de l'autre côté du spectre, parce qu'évidemment, c'est petits projets associatifs, mais il y a aussi des projets beaucoup plus ambitieux, j'allais dire. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on parle beaucoup de fermes verticales, avec ces tours de plusieurs dizaines d'étages dans lesquels on pourrait produire des quantités réellement significatives. Alors, il y a des fermes verticales un peu partout dans le monde désormais. Il y en a à Las Vegas, il y en a en Corée, il y en a à Abu Dhabi, il y en a à Nashville, il y en a en Chine, il y en a au Japon. Ce sont des projets souvent très ambitieux sur le plan architectural. On est vraiment dans le monde de la high-tech le plus abouti. On est très éloigné de ce modèle de paysannerie bio dont on nous dit qu'il doit, il doit redevenir la norme. Que vous inspirent ces fermes verticales en milieu urbain? Est-ce que c'est une folie totale, une hérésie totale, ou est-ce que finalement, il faut être réaliste et se dire que compte tenu de l'essor démographique, compte tenu de la dégradation des sols et des écosystèmes, il faudra y venir pour espérer nourrir le monde et en particulier les citadins?
Je pense qu'il faudra y venir, et on y vient déjà dans un certain nombre de situations où c'est absolument nécessaire. Si vous voulez manger des légumes frais à Singapour, vous n'avez pas tellement de choix autre que de les faire vous-même, sur place. Voilà. Mais Dieu merci, dans le monde entier, on n'est pas dans cette situation-là, et j'espère qu'on évitera d'y arriver, donc qu'on arrivera finalement à maîtriser l'extension urbaine. Concrètement, ces fermes verticales se développent surtout dans des structures urbaines à la fois très denses et très étalées, donc notamment des villes asiatiques, qui sont particulièrement concernées, ou dans des situations de climat extrême. Vous avez cité Abu Dhabi, on pourrait citer aussi des villes particulièrement nordiques, au contraire. Voilà. Donc c'est clair que dans un certain nombre de situations climatiques ou urbaines, on va avoir une nécessité d'en développer un certain nombre. Bon. Dans nos situations particulières en France, c'est pas du tout une urgence ni une obligation. Et aujourd'hui, l'extension urbaine, elle se fait essentiellement en termes de vitesse d'urbanisation, plutôt dans les pays d'Afrique subsaharienne, ou installer de tels projets, ça va être un peu difficile pour des raisons économiques, Et chez nous, en particulier, c'est pas une urgence, c'est pas une nécessité. Ceci dit, il faut pas non plus rejeter la possibilité d'avoir certains de ces systèmes, y compris d'ailleurs pour des productions qui sont pas que alimentaires, ou qui sont, par exemple, des productions d'aromatiques, ou des productions sur lesquelles il est tout à fait intéressant de pouvoir maîtriser complètement le climat, parce qu'on cherche une molécule. Alors, pour rester dans des domaines légaux, des molécules pour faire des productions cosmétiques, pour faire des productions médicamenteuses. Aujourd'hui, il y a un véritable marché qui peut s'ouvrir dans nos contrées sous ces objectifs-là.
Too many birds in one tree. Too many birds in one tree. And the sky is full of black and screaming leaves. The sky is full.
Merci infiniment à Christine Aubry qui est avec nous à l'instant par téléphone, ingénieure de recherche à l'INRA. Et un grand merci à vous, Thierry Doré, de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette agriculture de demain.
Je vous en prie.
Je rappellerai pour nos auditeurs qui veulent aller plus loin, agriculture biologique, espoir ou chimère, point d'interrogation, que vous avez signé avec Marc Dufumier et Gilles Rivière-Weckstein, paru aux éditions Muscadier, et à reparaître une prochaine édition très prochainement.
Hein. Oui, tout à fait. Premier semestre 2019.
Merci infiniment, Thierry Doré.
Je vous en prie.
One last blackbird without a place to be turns around in hopes to find the place it last knew rest. Oh, blackbird.
Bill Callahan, hein, c'est bien ça, petite pépite dénichée par Benjamin Hu, merci beaucoup. On va le mettre d'ailleurs sur le site de France Culture. Quand on a des petites pépites comme ça, on aime bien, comme ça on partage pour nos auditeurs. Allez, 11h53, une autre pépite, Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Le détroit de Taïwan est devenu l'un des points les plus chauds de la planète. Il semble que l'impatience de Pékin envers Taïwan soit en train de s'exacerber, Brice.
Eh oui, de très nombreux observateurs redoutent que la rivalité entre les États-Unis et la Chine populaire, jusqu'ici cantonnée dans le domaine commercial, ne débouche sur un conflit ouvert un de ces jours. Or, si un tel conflit devait éclater, l'île de Taïwan figure en tête des lieux de friction possibles entre les deux puissances. Voyons pourquoi. Il y a 40 ans, en 1979, les États-Unis ont reconnu en tant que seul gouvernement légal de la Chine celui exercé par le Parti communiste à Pékin. Les Américains se cherchaient un allié de revers contre l'Union soviétique et Nixon l'avait trouvé dans l'autre grand pays communiste rival de Moscou, la Chine populaire. Mais le prix à payer pour cette reconnaissance mutuelle fut celui que Pékin exige de tout État désireux d'établir des relations diplomatiques, à savoir la rupture des relations diplomatiques officielles avec l'autre Chine, l'île rebelle de Taïwan, dite République de Chine. Taïwan dispose d'une indépendance de fait, mais la Chine populaire ne le reconnaît pas. Selon la doctrine officielle chinoise, en effet, il ne saurait y avoir qu'une seule Chine, et Taïwan appartient à cette Chine unique. Comme envers Hong Kong, on pourrait envisager la doctrine un pays, deux systèmes, mais certainement pas le maintien de l'indépendance de facto dont jouit l'île. Mais précisément, le peu de cas qu'a fait Pékin des libertés à Hong Kong, après l'avoir récupéré en 1997, n'incite guère les Taïwanais à accepter de renoncer à leur autonomie. Elle est la garantie de leur démocratie. Mais pour les dirigeants de Chine continentale, le fait que l'immense majorité de la population de l'île ne tienne pas du tout à être dirigée depuis Pékin n'entre pas en ligne de compte. Sa logique est purement nationaliste. On sait, depuis le Tibet, le peu de cas que la Chine communiste fait du droit des peuples à l'autodétermination. Taïwan est chinoise, certes, mais elle n'a été rattachée politiquement au continent durant le XXe siècle que durant une brève période entre 1945 et 1949. C'est là que s'était réfugié le parti nationaliste chinois Kuomintang après sa défaite face à l'armée populaire communiste en 1949. Aujourd'hui, Taïwan est une démocratie irréprochable et connaît un développement économique spectaculaire. Il s'y est forgé une identité culturelle forte grâce aux libertés dont on y jouit, et les relations économiques et touristiques avec la Chine continentale, quoique bousculées par la crise politique actuelle, demeurent étroites. Les universités et les médias de Taïwan constituent en outre des postes d'observation extrêmement précieux pour tout ce qui se passe en Chine populaire.
Et Brice, lorsqu'ils ont officiellement fermé leur ambassade de Taipei il y a 40 ans, les États-Unis avaient pris des précautions.
Oui, ils ont fait voter une loi spécifiant qu'ils considéraient, je cite, « toute tentative de déterminer l'avenir de Taïwan par d'autres moyens que pacifiques » comme un motif de sérieuse préoccupation pour les États-Unis et qu'ils maintiendraient leur capacité à aider Taïwan à se défendre. Mais comme l'écrit Richard Haas, cette formule était d'une ambiguïté délibérée. Taïwan ne peut pas présumer d'une quelconque automaticité de l'aide militaire américaine en cas d'agression, mais Pékin, de son côté, ne peut pas écarter l'éventualité d'une telle intervention militaire. L'intention des dirigeants américains de l'époque était donc de geler la situation, de dissuader les dirigeants communistes d'envahir l'île rebelle, tout en dissuadant les gouvernements de Taipei de franchir le Rubicon en proclamant l'indépendance de Taïwan, ce qui serait considéré par Pékin comme une provocation insupportable, passible de représailles militaires. Alors, la Chine a longtemps caressé la perspective d'une réunification pacifique. Elle passait par la multiplication des échanges économiques avec l'île et par le tourisme. La stratégie consistait à étouffer lentement Taïwan en l'absorbant progressivement dans l'espace économique chinois. Mais cette stratégie patiente n'a pas marché. Et le mois dernier, le président Xi Jinping a lancé cet avertissement : « Nous n'excluons pas l'usage de la force envers Taïwan ». L'idée d'une réunification forcée obtenue par des moyens militaires gagne du terrain à Pékin. Le People's Daily publie des avertissements de plus en plus alarmants. Ainsi, le général en retraite Hong Guang y a écrit récemment, je cite, « Il y aura très probablement un conflit militaire ». Alors d'ores et déjà, les Taïwanais se plaignent de subir une guerre hybride. C'est ce qui ressort notamment d'un article récemment publié par David Ignatius, oui, l'auteur de romans d'espionnage, pour le Washington Post qui s'est rendu sur place. « La menace chinoise, écrit-il, est subtile. Elle se propage à travers les réseaux sociaux, les journaux, la télévision, à travers une campagne d'influence qui touche toute entreprise, ferme ou travailleur. » Si vous soutenez le Parti démocratique progressiste, le plus hostile à la réunification avec la Chine et actuellement au pouvoir, c'est toute l'île qui sera punie. Si vous aidez Pékin, vous serez récompensé. Eh bien, chaque jour, des milliers de messages sont postés par des trolls chinois afin de déstabiliser la société taïwanaise.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.